Bonjour Patrick Jacquier.
Bonjour.
Et meilleurs vœux pour 2024. Vous avez présenté vos vœux ce mercredi matin au Smart, un restaurant très célèbre à Dijon, autour d'une tête de veau. C'est toujours
oui,
le cas.
Oui, tout à fait. C'est notre grande originalité.
C'est la tradition. Bon, monsieur Jacquier, avec vous, on a parlé de l'actualité qui concerne évidemment le secteur économique de l'hôtellerie et de la restauration. Plusieurs sujets évoqués avec vous. Tout d'abord, problème de recrutement. C'est vrai que ça fait depuis la... notamment depuis la fin de la crise du Covid-19 qu'on entend parler, c'est apparemment très compliqué dans tous les secteurs d'activité, mais notamment dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, notamment très difficile de recruter. C'est toujours le cas en ce début d'année 2024 ?
Alors, effectivement, on a connu de gros problèmes de recrutement au cours des années qui ont suivi immédiatement le Covid.
2021, 2022 voilà. Et 2023 notamment.
Aujourd'hui, je crois que beaucoup d'entre nous, hôteliers, cafetiers, restaurateurs, ont fait un effort absolument énorme pour comprendre comment attirer de nouveaux jeunes.
C'est-à-dire que de nouvelles conditions de travail ?
Oui, enfin tout du moins une plus grande communication avec toutes les équipes, de manière à écouter en fait leurs demandes. Et je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est véritablement ça, c'est-à-dire avoir une véritable concertation sur l'organisation. Et bon, même si aujourd'hui on continue à connaître effectivement des problèmes de recrutement, ils sont un peu moins vrais aujourd'hui, et tant mieux. C'est un effort qui a été consenti par tout le monde, qui je crois était indispensable pour redorer un peu le blason de nos métiers, comme on dit. Et je crois que, par chance, on commence à y arriver.
Il y a des efforts qui ont été faits au niveau du salaire, par exemple, au niveau des conditions de travail, les horaires. Alors, les horaires, c'est difficilement aménageable dans le secteur de la restauration. On est toujours évidemment obligé de travailler le midi et le soir, un peu en horaire décalé, mais en tout cas, plus de jours de repos, par exemple, c'est des choses qui ont été négociées.
Non, il y a surtout des choses qui ont été négociées sur le plan national par les salaires, effectivement. Ça a été fait. La grille des salaires a évolué d'une manière importante, puisqu'on... nos SMIC sont supérieurs aux SMIC normaux. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Ensuite de ça, je pense qu'il a été entendu le fait que le problème de nos métiers sont les coupures. Vous savez, c'est ce qui fait que en France, comme dans beaucoup de pays, on déjeune entre midi et 14h, on dîne entre 19h30 et 20h30. Donc il y a souvent des équipes qui sont faites donc avec une coupure de l'après-midi. Aujourd'hui, grâce aux discussions que tout le monde a pu avoir avec chacun, on essaye d'arrêter ces coupures et véritablement de faire un travail en horaire continu. Alors, pour la province, autre que Paris ou que les grandes villes, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'à Paris, on déjeune et on dîne toute la journée ou presque avec la clientèle des
traiteurs. C'est un flux continu client dans des grandes brasseries, notamment parisiennes.
Alors qu'en province, effectivement, nos clients sont beaucoup plus limités en termes de temps. Et donc, on essaye, encore une fois, de faire en sorte que cette chose-là puisse se transformer, puisse en tout cas s'améliorer. Je crois que ça marche, c'est bien.
Ok, donc les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins compliqué pour vos confrères et vos consoeurs de recruter dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, dans les deux.
Dans les deux, effectivement. Ouais.
D'accord.
On reste malgré tout un métier en tension par rapport à des choses.
Ouais.
Et effectivement, on demande aussi à l'État de reconnaître que notre métier est en tension, de manière à ce qu'on puisse peut-être attirer chez nous aussi d'autres talents.
Ouais. Ces problèmes de recrutement, ils ont suivi la période dont je parlais, la période du Covid-19, la crise sanitaire en 2020-2021. Pendant cette crise sanitaire, on s'en souvient évidemment, il y a de nombreux restaurants qui ont été obligés de fermer pendant plus de 6 mois, fin 2020, début 2021. Et c'est à cette période que l'État a proposé le PGE, prêt garanti par l'État. De nombreux restaurants s'en sont saisis, mais aujourd'hui, apparemment, c'est compliqué pour les restaurants, 2 ans, 3 ans après, de rembourser ce PGE. Vous me le confirmez ?
Alors, c'était le cas pour l'ensemble de nos métiers, aussi bien les bars, les cafés, les restaurants, les hôtels. Les hôtels, de la même manière, ont été fermés au même titre que les restaurants. Effectivement, si vous voulez, l'État a protégé les métiers de restaurateurs et d'hôteliers et de cafetiers en nous donnant ces PGE. Aujourd'hui, effectivement, il faut rembourser ces PGE.
Mais j'ai entendu dire que c'est très compliqué pour certains restaurants de rembourser ce PGE aujourd'hui. Certains établissements seraient même menacés de fermeture à cause de...
Alors, par chance, ce PGE a été encore prolongé. Mais effectivement...
Mais on repousse encore le problème.
On repousse encore le problème. Et effectivement, certains souffrent du remboursement de ce PGE.
Et il y en a à Dijon ?
Oui, comme partout, malheureusement. Comme partout.
Ok. Comment vous voyez cette année 2024 qui commence, Patrick Jacquier? Alors, le sujet faisait la une de la presse locale il y a quelques jours. La presse locale parlait d'un risque de saturation. Vous en souvenez, hein, c'était chez nos confrères du Bien Public le 4 janvier. Mmh. Ça faisait la une du journal. Entre les hôtels, le nombre d'hôtels qui a progressé et les meublés touristiques, Airbnb, on pourrait arriver à une situation de saturation de l'offre hôtelière à Dijon. Quel est votre regard sur cette situation?
Ah, écoutez, il faut toujours regarder du côté optimiste des choses. Je crois que Dijon a extrêmement bien évolué depuis des années en matière d'accueil touristique. Je crois que tout a été mis en œuvre pour que Dijon devienne une véritable ville visitée et les week-ends et aussi pour les touristes un peu plus longuement. Donc ça, c'est une très bonne chose.
Il y a l'arrivée de la cité de la gastronomie de Dijon, par exemple. Il y a l'OIV, l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, qui s'est installée. Dijon est une ville attractive, c'est sûr, qui gagne des habitants. Mais est-ce que la demande potentielle est-elle proportionnelle à l'offre que l'on a? Est-ce que l'offre ne devient pas trop importante?
Alors, l'offre devient importante.
S'il n'y a pas trop d'hôtels et trop de chambres Airbnb, alors, pour parler concrètement.
L'offre devient importante par rapport à beaucoup d'autres villes similaires en termes de taille, c'est évident. Hein. Vous comparez des villes comme Dijon à Reims ou des villes de ce type. L'offre dijonnaise qui va aujourd'hui, après l'ouverture de ces hôtels, être d'environ 4000 chambres, plus tout ce qui est Airbnb, dont on ne connaît pas le chiffre exact, effectivement constitue une offre très importante. Maintenant, il nous appartient à nous professionnels et aux institutionnels, à la ville, au département, à la région, de faire en sorte d'attirer, de promouvoir encore plus la région. Alors par exemple, il y a un sujet sur lequel il faut qu'on se batte tous ensemble, c'est le train qui va de Belfort à Lille en passant par l'aéroport de la ligne
Mulhouse, Dijon, Montbard, Roissy, Charles de Gaulle, Lille, qui a été suspendu après la pandémie de Covid-19. Tous les élus de la région Bourgogne-Franche-Comté se battent auprès de la SNCF pour établir cette ligne. C'est toujours pas le cas.
Alors, je pense qu'il n'y a pas que les élus.
Ouais. Et vous aussi.
Il y a aussi tous les professionnels du tourisme. Ouais. Je crois que c'est une bataille générale dont on a besoin pour affirmer encore plus notre volonté d'accueil touristique. Hein. Et puis, je ne peux pas ne pas citer non plus l'aéroport de Dole, qui constitue quand même aussi un attrait touristique quelque part important dont on devrait, à mon avis, encore beaucoup plus se servir.
Et l'aéroport de Dijon, faudra le développer davantage?
Je crois que l'aéroport de Dijon a trouvé sa vocation.
C'est le tourisme d'affaires, il y a très peu de trafic quand même aujourd'hui. Hein.
Il a aussi
un potentiel non exploité selon vous?
Je pense qu'il est exploité effectivement par le tourisme d'affaires, ensuite par tout ce qui est médical.
Oui, bon, ça avec le lancement des vols entre Dijon et Nevers il y a un an.
Voilà, ça reste important. Maintenant, bon, on ne peut pas avoir 36 aéroports dans une région comme la Bourgogne-Franche-Comté, mais il faut en avoir un. Et ce un, je pense qu'aujourd'hui, c'est Dole.
C'est surtout Dole, il faut le maintenir.
Il faut vraiment le maintenir et au contraire essayer d'aller un peu plus loin.
Ouais. Vous êtes... je vous en prie. Vous êtes toujours en guerre contre Airbnb, Patrick Jacquier?
Alors moi, je n'ai jamais été en guerre contre Airbnb parce que je pense qu'Airbnb... aujourd'hui est une offre d'hébergement supplémentaire par rapport aux offres d'hébergement existantes. Simplement, la guerre que nous menons, et je ne peux pas dire que ce soit une guerre, je pense que c'est véritablement ce que l'on demande, c'est une équité de traitement entre tout ce qui est Airbnb et tout ce qui est hébergement professionnel, hôtelier.
Vous n'êtes pas logé à la maison ancienne, à la même enseigne, si je puis dire, sans faire de mauvais jeu de mots.
Exactement. Exactement. Regardez, dans un hôtel, vous avez des normes d'hygiène, des normes de sécurité.
Drastiques, et
contrôlées. Vous avez une personne 24 heures sur 24 qui est là pour assurer la sécurité des gens.
Donc des frais importants.
Excusez-moi, quand vous avez des clients étrangers, vous avez une fiche de police qui est demandé de mettre contrôler l'identité des clients. Aujourd'hui, chez Airbnb, toutes ces choses-là ne sont pas demandées. Donc, loin de moi l'idée de limiter en fait l'offre de Airbnb, elle correspond à une demande de clients. Ce sont les mêmes clients que les clients des hôtels à des moments différents, c'est tout. Simplement que l'on ait les mêmes règlements de manière à ce qu'on puisse être comparable aussi en matière de tarifs.
Entendu. Ça, c'est une bataille que vous C'est une bataille que vous poursuivez, que vous allez poursuivre, je suppose. Un mot rapidement sur, encore une fois, cette année 2024 qui commence, année sportive, évidemment, avec les Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu fin juillet, début août. Et puis, en Côte d'Or, on a la chance d'avoir le passage du Tour de France qui va arriver une étape le jeudi 4 juillet, qui partira de Mâcon, qui arrivera à Dijon, contre la montre entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, puis ce mur en Aussois, Colombey-les deux églises. Évidemment, le Tour de France, troisième manifestation sportive la plus médiatisée au monde, ça va ramener beaucoup de monde, beaucoup de fans de vélo, les équipes, les journalistes, etc. Ça va remplir les hôtels et les restaurants. C'est une bonne nouvelle pour vous.
Bien sûr, c'est évidemment une bonne nouvelle.
Vous en réjouissez.
Bien évidemment, et puis surtout voir des images sur la Côte d'Or, sur Dijon, sur la Bourgogne en général, qui vont donner l'envie, en fait, de venir pendant les vacances.
Beaucoup de projecteurs sur la région.
Vraiment, oui. Et puis, sans oublier le concours de pétanque.
Oui, championnat du monde.
Championnat du monde de pétanque. Alors, je vous avoue que je ne connais pas les limites du championnat du monde de pétanque, mais en tout cas...
Vous ne jouez pas à la pétanque, Patrick Jacquet.
Je vais peut-être m'y mettre un jour, mais ça demande peut-être... Oui, voilà, exactement.
Merci, Patrick Jacquet. Belle année 2024, on vous souhaite la santé.
Merci, c'est ça l'important. À vous aussi.